ce film, j'ai voulu reprendre le contrôle. Fin de citation. Cette phrase a été prononcée par la chanteuse Angèle la semaine dernière au Grand Rex, alors qu'elle présentait en avant-première son documentaire disponible sur Netflix le 26 novembre prochain. Avant celui-ci, c'est la série documentaire du rappeur Orelsan sur Amazon Prime qui a fait sensation. On vous en avait parlé dans cette émission. On avait reçu son réalisateur qui n'est autre que son frère. Encore avant, ce furent dans les derniers mois des docs avec les participations de Gims, Big Flo et Oli, Pink, Lady Gaga, Mylène Farmer ou encore Taylor Swift. Les documentaires sur les stars de la musique ont la cote sur les plateformes de streaming et auprès du public. Mais pour quelle raison? On en parle avec nos deux invités. Olivier Forest, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le co-directeur du FAM, c'est le festival de films sur la musique, Fame, sur la musique à la Gaîté Lyrique, F-A-M-E, Fame, prononcé à l'anglaise. Thibaut Carayol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du podcast Le Jour Pop, podcast dans lequel chaque mois vous revenez sur un jour qui a marqué la musique pop, comme son nom l'indique. Olivier Forest, est-ce que comme nous, vous avez remarqué cette accélération de projets documentaires?
Ah bah c'est clair que depuis quelques mois, enfin voire un ou deux ans, même depuis l'arrivée des plateformes en fait, il y a une profusion. Enfin il n'y a pas un mois sans qu'on ait un nouveau documentaire sur une star, sur un musicien. Donc effectivement, c'est un phénomène très marquant. Et je crois que ça vient aussi de la compétition entre les plateformes. Elles veulent toutes avoir leur documentaire et les artistes aussi.
Je vais illustrer en musique votre propos. L'actualité, c'est la sortie prochaine du documentaire de la chanteuse Angèle, on en a parlé sur Netflix.
Ça a été tellement vite. Et en même temps, je me demandais, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi moi? J'ai donc développé cette fille-là, une version améliorée de moi-même. Un mélange de tous mes fantasmes. Aujourd'hui, celle de la réussite est devenue une envie. Avant, j'étais libre.
Juste après le carton de documentaire d'Orelsan sur Amazon Prime.
En les suivant, je voulais trouver le secret pour réaliser ses rêves. 20 ans plus tard, je suis prêt à le partager.
Avant Orelsan, il y a eu Gims.
C'est très compliqué de me mettre dans une case. Je serai le premier Africain et premier rappeur, chanteur urbain à avoir fait le stade.
Dans un tout autre genre, Mylène Farmer.
C'est le bon moment. M'approcher de vous, plus près. De plus en plus près.
L'air est lourd de ton absence.
Plus près, de plus en plus près. On est dans le cœur du sujet, Thibaut Carayol. On dit Angèle sort son documentaire, comme si on disait qu'elle sort son disque. Et pourquoi les stars de la musique s'investissent dans ce genre de projet?
Bah, comme vous l'avez dit en introduction, pour reprendre le contrôle. Comme elle l'a expliqué, il y a deux objectifs principaux. Il y a le premier qui est d'élaborer un storytelling d'artiste.
Storytelling, c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire, on a envie qu'il soit raconté.
Voilà. Et on prend le contrôle du récit.
Au lieu que quelqu'un la raconte à votre place. Bah c'est la différence avec ce qu'on appelle les biographies autorisées et les biographies non autorisées.
Absolument. Et puis on s'adresse comme ça à des fans, on renforce comme ça ta communauté de fans. Et puis après, on s'adresse aussi à des gens qui s'intéressent à nous. Et puis, on se filme comme ça dans son quotidien, dans son intimité. Forcément, l'intimité, c'est la proximité. Et la proximité, c'est l'attachement. Donc comme ça, après, on a plus envie d'écouter des chansons et d'aller voir des places de concert. Parce qu'on a vu le processus créatif. On a vu comment on crée des chansons. On a vu comment on était dans les coulisses d'une tournée. Donc après, c'est un cercle vertueux, quoi. Ça s'auto-alimente.
Ouais, toute la rédac, ici, à Culture Média, écoute Orelsan depuis qu'on a vu le doc,
voilà.
Ce qu'on ne faisait pas auparavant. Ça, c'est du côté des stars, du côté des plateformes, Olivier Forest. Pourquoi Netflix, Amazon et les autres investissent dans ces documentaires? Combien même ces chanteurs, chanteuses ont une communauté? C'est une communauté de niche. Pourquoi ça intéresse à ce point Netflix ou Amazon?
Alors, quand on parle de Rihanna, de Billie Eilish, on est sur des niches qui sont quand même des très grandes niches. Parce que
c'est
des dizaines de millions de followers sur les réseaux.
Ouais.
Donc, mais effectivement, vous avez raison, elle joue sur tous les tableaux. Les plateformes, en fait, il y a deux types de documentaires qui les intéressent. Il y a ce qu'ils appellent les acquisition doc, qui permettent d'acquérir des abonnés, et les retention doc, qui permettent de retenir les abonnés. Voilà.
C'est pas vrai, j'ai appris quelque chose.
Et ouais. Ça, c'est effectivement.
Acquisition doc, retention doc.
Voilà, le retention doc, c'est les histoires de crimes, les histoires d'affaires criminelles, etc. Mais les acquisition doc, ceux qui vont pousser les gens à s'abonner, et bien on s'est rendu compte que les documentaires sur des musiciens, sur des gens qui sont très forts, qui ont des communautés comme ça, ça fait venir les gens.
Je résume, admettons qu'il y ait 100 000 fans qui soient prêts à s'abonner à Amazon Prime pour voir le doc sur Orelsan, ils s'abonnent alors qu'ils n'y étaient pas, et une fois qu'ils y sont, ils y restent.
Et bien une fois qu'ils y sont, pour les faire rester, là, on va mettre des true crime, des histoires sur le petit Grégory, sur des affaires criminelles, sur des problèmes écologiques, sur des sujets pour qu'ils restent, voilà. Mais en tout cas, on les aura attirés sur la plateforme.
En quoi, au niveau du fond maintenant, en quoi ces documentaires, vous qui dirigez le FAME, Festival de Films sur la Musique, en quoi ces documentaires sont-ils différents de ceux qu'on avait l'habitude de voir sur les chaînes classiques en linéaire ?
Alors je crois que ces documentaires, un de leurs intérêts, c'est qu'ils dépoussièrent un peu un vieux format dont on s'était quand même beaucoup lassé, qui était le format un petit peu archive, interview devant une console de mixage, archive, interview devant des vieilles guitares. Donc voilà. Là, comme il y a quand même...
Je souris parce que j'en ai vu tellement que j'en peux plus. Vous voilà. Avez tellement raison.
Voilà, c'est des documentaires qui nous ont un peu lassés, ouais. Qui nous ont un peu fatigués. Et là, ça s'adresse aussi à une nouvelle génération de public, à une nouvelle génération d'artistes. Donc voilà, il y a eu une volonté de réinventer un peu les formats. Et pour attirer les gens, il faut aussi, à chaque fois, il faut que ces documentaires proposent quelque chose. Donc soit un accès, un all access à l'artiste, comme avec Billie Eilish, soit comme avec Aurel San, des archives absolument inédites que personne n'a jamais vu. Donc voilà, à chaque fois, ces films doivent essayer de proposer quelque chose de nouveau et peuvent plus se contenter de juste retripatouiller les mêmes recettes.
Ce qu'on va le dire, on en reparlera tout à l'heure, mais pour Aurel San, c'est son frère qui l'a filmé. Son frère, depuis qu'il a 13 ans lui-même et lui 18 ans, il était persuadé, le petit, que le grand allait devenir une star. Il le filmait tout le temps, y compris quand il était veilleur de nuit, avec des séquences qui, théoriquement, n'avaient strictement aucun intérêt et qui, là, désormais, prennent une saveur absolument phénoménale au regard du succès quand on remplit des stades et des zéniths, comme c'est le cas d'Aurel San. Thibaut Carayol, la plupart des documentaires qui sortent se passent souvent dans les coulisses d'artistes qui préparent leur tournée. C'est ça la valeur ajoutée que n'ont pas les autres, que n'ont pas des grosses émissions. Là, si on voit Billie Eilish dans sa cuisine ou Lady Gaga dans sa salle de bain, personne ne peut avoir ça.
Non, et puis c'est toujours dans des moments, les tournées, voilà, c'est des moments atypiques, on va dire, et qui sont aussi le cœur de la vie d'artiste. Et c'est ce qu'on a aussi envie de voir.
Je me souviens du documentaire This Is It consacré à Michael Jackson. C'était extrêmement contrôlé. Là, on n'est pas là-dedans. Je veux dire, par exemple, pour reprendre le documentaire sur Aurel San, il n'a pas le beau rôle. Il est dans sa salle de bain. Michael Jackson, on ne le voit pas dans sa salle de bain. On ne voit pas sa maison. On ne le voit que pendant les répètes. Et encore, il chante toujours juste. Il est toujours très en place. Est-ce que parfois, il y a des dérapages dans ses docs? Est-ce que c'est justement ça qui n'en ferait pas la saveur?
Des dérapages, non, mais ce qui fait la saveur, c'est aussi de les voir vulnérables. Voilà, et de voir, on voit, par exemple, Beyoncé a fait beaucoup de documentaires aussi.
Qu'est-ce qu'on voit, par exemple, sur Beyoncé?
Elle se filme toute seule, en selfie, sans maquillage, faussement sans maquillage, ouais. Et en train de pleurer, en train de montrer aussi des fêlures, parce qu'il y a aussi cette volonté de devenir humain.
La référence, la première référence, c'était un doc de Bob Dylan, Don't Look Back, qui était sorti en 67, qui suivait sa tournée au Royaume-Uni en 65. Ces documentaires étaient d'abord réservés aux Américains, ou plutôt, il n'y avait que les Américains qui les faisaient, Thibaut Carayol. Pourquoi les Français ont-ils autant attendu? Qu'est-ce qui les a fait franchir le pas?
Oh, ce qui leur a fait franchir le pas, je pense que c'est un peu tous les nouveaux modes de consommation, etc. C'est-à-dire, en fait, ça existait déjà, mais là, c'est vraiment un renouvellement, quoi. Et on est un petit peu aussi dans une cohérence entre la musique qu'on écoute sur une plateforme de streaming, le film qu'on regarde sur une plateforme de streaming. Et puis, surtout, je pense que les musiciens se sont rendus compte maintenant, ça fait clairement partie de la stratégie de promotion d'un disque ou d'une tournée, hein. C'est-à-dire, les documentaires sortent toujours à un moment assez opportun, quand même.
D'un mot, Thibaut, dans les années 2000, il y avait déjà eu des documentaires en DVD qui suivaient Matt Pokora et Jennifer, mais c'était pas encore trash. C'était encore très contrôlé, ou me trompe?
Oui, mais c'était vraiment de la... Il n'y avait pas les plateformes. Alors, des fois, c'était vendu en télé. Par exemple, Jennifer, c'était produit par Nagui de mémoire, et c'était sur les chaînes du câble. Mais et après, c'était vendu aux fans directement. Donc, il y a des DVD un an avec Matt Pokora qui existent, quoi. Mais c'est très cadré.
Voilà. Donc maintenant, ce qui change, c'est que ce sont des documentaires autorisés, mais certaines images sont presque non autorisées. C'est ce qui fait tout le sel de ces docs. Thibaut Carayol, Olivier Forest, vous restez avec nous. Culture Média continue.
Philippe Blondel.
On parle des documentaires autour de stars, documentaires contrôlés, même parfois produits par les stars elles-mêmes. Nous sommes avec Thibaut Carayol, c'est l'auteur du podcast Le Jour Pop, et Olivier Forest, vous êtes le co-directeur du FAME, le festival de films sur la musique qui se déroule à la Gaîté Lyrique. Olivier Forest, on le sait, les sorties d'albums d'artistes sont toujours très marketées, très planifiées. Est-ce que c'est la même chose pour les documentaires? Je vais poser la question un petit peu différemment. Quand on voit un dérapage dans un documentaire, est-ce que c'est un dérapage contrôlé?
Ah bah, il y a de fortes chances que ce soit un documentaire contrôlé, un dérapage contrôlé. C'est évident que ce qu'on montre, surtout quand un artiste produit, s'investit dans son documentaire, ce qu'on montre, c'est qu'on a envie de montrer. Donc quand on montre des fêlures, quand on montre une vulnérabilité, quand on montre une fragilité, c'est qu'on a envie de la montrer. Ça fait partie du narratif, du storytelling qu'on a envie de dire. Un des documentaires emblématiques de ça, presque le pionnier, c'est le documentaire In Bed with Madonna, qui date de 91.
Je me souviens très bien.
Embarqué avec Madonna dans son intimité. Ça, c'était un peu du jamais vu quand même, du jamais vu à l'époque.
Le souvenir que j'en avais, c'est que c'était une fiction totale.
Voilà.
Et que ça avait été mis en scène.
Totalement contrôlé, totalement mis en scène, etc. Donc voilà, effectivement. Donc quand on voit le film sur Lady Gaga, il livre beaucoup de choses sur Lady Gaga, mais il est produit par Live Nation. Il est produit, voilà. Donc,
Live Nation, c'est l'organisateur, c'est le plus grand tourneur mondial désormais qui gère les tournées de U2 et de Lady Gaga.
Organisation 360.
Thibaut Carayol, vous l'avez vu, le doc sur Lady Gaga.
Ouais,
on la voit faire quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit des moments de dérapage, des moments de faiblesse?
De dérapage, non, parce que comme on disait, c'est très contrôlé. Après, de la faiblesse, oui, on la voit complètement, comme on disait, médicamentée, amorphe sur son lit, en train de se faire piquer pour avoir du boost, quoi. Mmh. Et ce qu'on voit aussi, c'est déconstruire l'image de Lady Gaga, l'excentrique, pour montrer derrière une forme d'authenticité qui allait avec l'album qu'elle vendait à ce moment-là.
D'accord. Ah oui, donc
c'était, comme je disais,
et
dans le storytelling.
D'autant qu'il y a eu un glissement de sens en 10 ou 20 ans, puisque la fragilité qui était quelque chose qu'on voulait cacher, c'est maintenant quelque chose qu'on veut montrer, c'est une valeur cardinale. Avant, un homme ne devait jamais pleurer, et cette image m'a frappé hier, le président de la COP à Glasgow, de la COP 26, pleure à la tribune. C'était impensable de voir un homme pleurer à la tribune, un président d'assemblée, il y a 10, 20 ou 30 ans. Les valeurs ont changé.
Oui, les valeurs ont changé. C'est vrai que c'est étonnant. Il y a quelque chose qui a beaucoup changé aussi dans ces documentaires musicaux, c'est qu'il y a une nouvelle source d'image, qui est l'image que les artistes tournent eux-mêmes et qui mettent sur leurs réseaux sociaux.
Ça, c'est vrai.
Et ça crée tout un réservoir d'images qui n'existait pas du tout avant et qui vient maintenant nourrir les films, comme le film sur Amy Winehouse. Il y a un très beau film sur un rappeur qui s'appelle Lil Peep, qui est quasiment entièrement constitué de ce que lui a tourné pour son Instagram ou son Snap, etc. Et ça vient nourrir cette envie de se livrer, donc de se livrer pas forcément au meilleur de soi-même, mais ça fait quand même partie d'une stratégie de communication, d'une stratégie de rapport avec ses fans.
C'est vrai qu'il y a un avant et un après, l'avant et l'après, l'invention de l'iPhone. C'est-à-dire le fait de pouvoir se filmer sans qu'une équipe de télévision soit chez vous. On parlait du documentaire, je le disais avec un petit peu d'ironie, sur le fait que tout était préparé avec Madonna, forcément, puisque pour filmer Madonna, il faut qu'il y ait un caméraman qui soit là. Là, elle ne peut pas être filmée par elle-même ou par sa fille ou par son amant.
Non, et puis maintenant, de toute façon, on suit les stars au quotidien, dans leurs stories, sur Instagram, etc. Donc, on est au courant de ces fêlures, de ces moments de faiblesse. Il y en a plein qui se mettent en larmes, en FaceTime presque. Donc, le documentaire, finalement, il ne fait qu'approfondir ça. Et il suit la tendance.
Je voudrais qu'on parle d'une des stars françaises les plus mystérieuses. Peut-être que ça va changer. Thibaut Carayol, avant de produire votre podcast Le Jour Pop, vous avez également co-écrit un podcast consacré à la carrière de Mylène Farmer. Ça s'appelait Histoire 2. Et à la surprise générale, la chanteuse française qu'on ne voit quasiment jamais dans aucun média a sorti l'an dernier une série documentaire sur les coulisses de son dernier show où on la découvre se montrer sans phare, par exemple à la cantine en commandant un plat de coquillettes. Oui, extrait.
Bon, qu'est-ce qu'on mange?
Alors, moi, on m'a parlé de poulet.
Oui.
Oui.
Et voilà, c'est tout.
Mais on fait cuisson.
Coucou. Là, je sais pas, tu as quoi? Tu as poulet ou pas?
J'ai poulet, j'ai viande, j'ai tout.
Poulet.
Un poulet.
Est-ce que tu as des coquillettes?
Des coquillettes, non, mais je vais en acheter.
Non, mais laisse tomber, c'est pas grave. Loulou, tu touches pas. Tout va bien.
Mais non, mais il faut se mettre en place.
Tout va bien. Ce soir, je veux bien pâtes et poulet.
Mylène Farmer, plus de 30 ans, a contrôlé son image, a verrouillé ses rares prises de parole médiatiques, a arrivé dans les émissions de télé avec son propre staff, coiffeur, maquilleur, des mises en scène de clips mystiques, pour finalement accepter ce lâcher prise et se montrer qu'un plat de coquillettes. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ce choix de sa part?
Le choix, probablement, de déconstruire une image. Une image, peut-être, qu'il a lassée, en fait, qu'il lui soit totalement, tout le temps associé, l'image de la femme mystérieuse, etc. Et de montrer que derrière ça, il y a une artiste qui mange des coquillettes, ou voilà, et qui doute, et aussi qui travaille. Et aussi de montrer ça.
Vous pensez que ça va plaire aux fans? Ou est-ce qu'au contraire, les fans, ce qu'ils aiment, c'est cette image mystérieuse?
Ça plaît aux fans, et puis.
Ah bon?
Oui, non, les fans n'aiment pas forcément que l'image mystérieuse, mais ça surprend pas vraiment les fans qui la suivent et qui vont voir ses concerts, mais cette image-là, mais ce qui est très intéressant, c'est que derrière, ça montre aussi que c'est une showwoman, ça, c'est l'image qu'on a d'elle, mais qu'elle travaille et qu'elle s'implique à fond là-dedans, et que même si elle avait rien à vendre au moment de la sortie du documentaire l'an dernier, Finalement, cette image-là, elle rentre en tête, et un an après, quand elle met en vente sa tournée des stades, on se souvient que Mylène Farmer, ok, elle fait des shows, mais qu'elle travaille vraiment pour ça, et qu'en plus, elle est sympa parce qu'elle mange des coquillettes. Donc, on prend des places pour aller la voir au Stade de France.
Je dirais un mot d'un documentaire qui a vraiment changé beaucoup de choses dans le monde de la musique. C'est celui produit par le New York Times, Framing Britney Spears, véritable enquête journalistique qui révélait l'emprise du père de Britney Spears sur sa fille qui était sous sa tutelle. Si on peut entendre quelques images, quelques sons, la justice américaine a décidé ce week-end de lever cette tutelle sous les cris des fans.
It's official, the conservatorship of Britney Spears has been terminated.
Ça a changé quelque chose, Olivier Forest. Là, ce doc a changé la vie de cette personne.
Ouais, et puis là, je crois qu'on est aussi dans un vrai travail documentaire. C'est-à-dire que là, il s'agit de découvrir des choses, de raconter, de donner des informations, d'enquêter, de mettre à jour quelque chose. On n'est pas du tout là dans le côté promo, etc. Sortie d'album. On raconte un vrai drame que vivait Britney Spears, tout le mouvement qu'il y a autour, le Free Britney, etc. Le hashtag Free Britney pour la libérer. Et effectivement. C'est un doc donc produit par le New York Times qui a complètement remis ce sujet sur la table et qui a trouvé un épilogue assez récemment. Et je pense que c'est évident que le documentaire a joué un rôle là-dedans.
Merci beaucoup Olivier Forest. Vous êtes le co-directeur du FAME, le festival de films sur la musique. C'est à la Gaîté Lyrique. La prochaine édition, ce sera quand ?
Ce sera du 16 au 20 février 2022, en salle, bien sûr, on l'espère.
Thibaut Carayol, merci d'avoir été avec nous. On peut écouter Le Jour Pop, qui est votre podcast sur l'ensemble des plateformes de streaming. Et souvenez-vous bien de ce hashtag Free Coquillette. Dans un instant, on va parler du jeu télévisé Tout le monde a son mot à dire. C'est diffusé depuis 2017, tous les jours sur France 2. C'était du lundi au vendredi, c'est passé du lundi au samedi. Et l'émission fait demain sa 1000e. Nous serons avec ses deux co-animateurs, Sidonie Bonnec et Olivier Mine.